9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on est très heureux d'accueillir Christophe Ondelat.
Quel plaisir, bonjour Christophe Ondelat.
Bonjour.
Les auditeurs d'Europe vous connaissent bien, Christophe. Vous présentez Ondelat raconte du lundi au vendredi de 14h à 15h. Et c'est évidemment disponible en podcast. Ça marche très très bien, on va en reparler. Vous êtes célèbre dans toute la France et même une figure, puisque vous êtes le créateur de Faites Entrer l'Accusé et son célèbre blouson. Mais d'abord, petit détail technique, Christophe Ondelat. Comment faut-il prononcer votre nom, Ondelat ou alors Ondelat en trois syllabes?
Ah, je me suis longtemps battu pour qu'on prononce les syllabes, puisque moi je viens du sud-ouest de Bayonne, et donc chez moi on prononce toutes les... Donc on dit Ondelat. Maintenant après, j'ai longtemps demandé, notamment aux speakerines...
Mais oui, à RTL, c'est pour ça que je vous pose la question.
Je leur disais qu'il fallait prononcer, puis après j'ai abandonné ce combat comme beaucoup d'autres.
Ce combat, vous retrouvez l'accent.
Ce combat.
Il y aura des accents. Ondelat raconte, c'est donc tous les jours de 14 à 15 heures, une heure de récit, lundi, vendredi, le samedi, il y a une rediff, c'est ça? Comment vous choisissez les histoires et d'abord comment vous travaillez, Christophe?
Alors, on choisit les histoires, c'est mon équipe, Nicolas Loupien, Bettina Servant et Attika Boukara qui choisissent mes histoires. Ils lisent des livres en fait en continu. On achète beaucoup de livres sur le marché de l'occasion sur Internet. Ils les lisent et ils me disent bah là, je pense qu'il y a une histoire. Et donc le travail de préparation. Alors il y a plusieurs graduations dans la préparation. Les affaires criminelles, c'est un cas à part. C'est un texte écrit. Que j'aurais écrit intégralement.
Ouais.
Tous les autres sont des livres qu'on me donne surlignés. Je demande qu'on les surligne pour faciliter la lecture. Et moi, je travaille directement sur le livre, soit sans plan du tout, c'est-à-dire je me lance dans le bouquin et je me débrouille, soit on me propose un petit plan, soit on me propose un plan un peu plus détaillé. Mais je ne travaille pas sur texte, je travaille personnellement, tout seul, sur le livre, pour écrire mon texte.
Alors, je peux vous dire, Christophe Ondelat, il est au bout du couloir, il est dans son bureau, il passe son temps à travailler. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous demander comment vous choisissez les histoires. Qu'est-ce qui fait une bonne histoire ?
Bah, une bonne histoire, c'est une histoire dont on ne devine pas la fin quand elle commence, qui est pleine de rebondissements.
Oh bah alors là, si. Alors celle du jour, on devine la fin, puisque ouais. C'est les trois derniers guillotinés. À Tarbes.
Oui,
donc on connaît la fin.
On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils ont commis, etc. Donc voilà, il faut qu'il y ait du suspense, il faut qu'il y ait des rebondissements. Et puis ce qui fonctionne très bien dans une bonne histoire, c'est les processus d'assimilation, c'est-à-dire, est-ce que je peux m'assimiler à cette histoire? Qu'est-ce que j'aurais fait moi si ça m'était arrivé ou si j'avais été tenté de commettre ou de faire telle ou telle chose. Voilà, c'est ça une bonne histoire.
En 44, Pierre Sost, le maire du village de Créchet, est retrouvé mort dans sa cuisine. Créchet, pardonnez-moi, oui,
ah
on
oui.
prononce comme ça. On
oui.
prononce toutes les lettres. Mort dans sa cuisine avec sa mère, son domestique et l'un de ses amis. L'histoire se termine, vous le dites dès le début, par trois coups de lame sous la guillotine. Pourquoi cette histoire vous a-t-elle intéressé? J'en parle parce que c'est celle du jour.
Alors, c'est une affaire criminelle de 1944 qui est jugée en 48 devant la cour d'assises. Ce seront les derniers condamnés à mort du département des Hautes-Pyrénées, de la cour d'assises de Tarbes. On fait venir la guillotine à Tarbes pour la dernière fois, puisqu'à cette époque-là, on fait venir la guillotine de Paris. Elle arrive par le train. En kit, avec le bourreau et ses assistants qui montent la guillotine, qui exécutent, qui démontent et qui rentrent à Paris. Comment on tombe sur cette histoire? On a quelques mines d'or et notamment un type qui s'appelle Coudache, Jean-François Lafourcade, qui est un ancien avocat de Tarbes et qui consacre sa retraite à aller fouiller dans les vieux dossiers et qui a fait des bouquins. Alors, il a fait des bouquins avec des histoires qui sont parfois un peu courtes, donc c'est un peu limite pour moi, mais celle-là, elle est juste.
Alors, voilà. Il y a un plaisir dans le récit, et on sent que vous prenez vous-même du plaisir dans le récit, et on comprend, vous écoutez, il y a des accents.
Il voit sur le sol de la grande pièce deux corps dans une mare de sang. Oh, il députe. C'est Madame Rosalie. Il la reconnaît tout de suite. Et l'autre, c'est le domestique, Joachim. Et le maire? Eh bien, le maire, on ne sait pas où il est. Quoi qu'il en soit, Félix est tout tourneboulé, et donc il rentre à la poste en courant. Il y retrouve sa femme.
J'arrive de chez Sost. La porte était fermée. J'ai regardé par la fenêtre. On a tué la mère. La Rosalie et Joachim aussi. Ils sont par terre dans le sang. Il faut que tu appelles les gendarmes de l'Aubarousse. Il faut les prévenir. Oh, Boudiou, quelle histoire!
Boudiou. Pourquoi vous aimez à ce point faire les accents, Christophe Fondelat ?
Il députe surtout.
Ouais. C'est ah, j'ai pas osé le relever. Bon, enfin.
Il députe qui veut dire fils de pute en occitan.
Merci d'avoir traduit.
On a de rares occasions de le prononcer.
Pourquoi
à la
vous
radio,
aimez à ce point faire les accents ?
Bon, ceux du sud-ouest, en fait, de la graduation qui va de Marseille jusqu'à chez moi, à Bayonne, je les connais assez bien.
Non, mais attendez, je vous ai entendu faire l'accent coréen déjà.
Oui, alors, je peux raconter un secret là-dessus. En fait, les accents asiatiques, d'abord, bon, c'est pas très à la mode d'imiter les accents étrangers. Mais enfin, il faut quand même distinguer le personnage dans un récit. Donc moi, en gros, j'ai bien connu le prince Norodom Sihanouk du Cambodge. Je l'ai interviewé une ou deux fois, je l'ai approché, et il avait un accent extraordinaire. Il parlait comme ça, n'est-ce pas ? Je fais comme ça, et alors, je suis sa majesté, etc. Et donc, en fait, tous mes accents asiatiques sont des imitations du prince Sihanouk du Cambodge.
Vous amusez, il y a aussi l'humour involontaire. Dans l'histoire du jour, il y a trois condamnés à mort, je l'ai dit, trois Espagnols, et au petit matin, on vient chercher l'un d'entre eux.
Le petit groupe se dirige vers les cellules des condamnés à mort. Ils ouvrent d'abord la porte de Prieto. Il dormait.
Alors ? Ça y est, je suis gracié ?
Comme personne ne répond, il comprend que non.
Allez, Prieto, ne fais pas d'histoire, hein ? Habille-toi, tout va bien se passer.
Tout va bien se passer, il va quand même se faire couper la tête.
Ouais, ouais.
C'est de l'humour de vous, c'était dans le texte, où ils lui ont vraiment dit ça, tout va bien se passer.
Il lui a vraiment dit ça. Enfin, c'est ce que dit Coudache.
Ouais.
Moi, je n'ai pas la possibilité d'aller vérifier au-delà de ce que me dit ma source, mais c'est ce que dit Coudache. Ouais.
Puis j'aime beaucoup l'habillage sonore qui est très, très soigné.
C'est
l'île
de Braze.
Ouais.
Et après, ça va très vite.
Bim. On le sent bien le petit coup, hein. Tout s'est bien passé. Là, au moins, t'as la paix après. Hein.
C'est assez marrant parce que arrive quelque chose qui va être un petit événement dans l'émission. Je vais raconter en quatre épisodes comment Robert Badinter, à travers deux grands procès, s'est construit sa conviction contre la peine de mort. Et je n'ai pas mis dans le récit de Robert Badinter, qui est déjà enregistré, pas l'interview, mais le récit, je n'ai pas mis la chute de la guillotine. Parce que c'était trop frais, trop récent, trop insupportable. Là, on est en 48, je me suis dit, ça passe. Et avec Céline, on l'a mis. Voilà.
Je prendre une seconde pour dire que vous allez plus loin que le simple récit. Vous avez retrouvé Jean-François Fourcade, vous en parliez, et vous lui avez posé une très bonne question.
Ils étaient au courant de ce qui s'était passé chez eux ?
Non, c'est moi qui leur ai appris. Je ne sais pas si j'ai bien fait.
Et ça ne les a pas trop effrayés de dormir dans une maison où avait eu lieu un quadruple meurtre il y a 70 ans ?
Oui, non, pas du tout. Vous savez, ce sont des Anglais. Les Anglais ont un flegme britannique. Ils ont pris la chose, non pas comme un honneur, mais comme une petite gloire personnelle d'habiter un lieu dans lequel il y a eu
il s'est passé
un
quelque chose.
De crime.
Non, mais là où c'est génial, c'est que grâce à vous, j'ai appris que la maison d'hôte à Créchette, il y a eu un mort. Maintenant, tout le monde est au courant.
Il y a quatre morts. Il y a quatre morts dans cette maison. Et c'est une maison d'hôte. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un hôtel en Haute-Loire, je crois me souvenir, l'Auberge Rouge, qui a hébergé deux guillotinés. Il y a eu deux personnes guillotinées devant la porte.
Ouais.
Hein, la guillotine, à l'époque, était déplacée sur les lieux du crime. Et l'hôtel, à contrario, en joue.
Ouais.
C'est-à-dire, dit, venez dormir là où ont été guillotinés les tueurs de l'Auberge Rouge.
Je souhaite un bon week-end à tous nos auditeurs qui s'apprêtent à partir en villégiature. On se retrouve juste après ça, Céline.
Oui, il est né un 17 décembre à Bayonne. Violoncelliste, il s'est d'abord lancé dans la musique avec un spectacle « Dans ma maison, tu viendras ». Il est aussi intervenu dans le doublage de Ratatouille. Merci Wikipédia. Aujourd'hui, sa maison est devenue bleue, elle s'appelle Europe 1 et nous fait vibrer chaque après-midi de 14h à 15h avec son émission « Ondelat raconte ». C'est Christophe Ondelat qui est notre invité et il reste avec nous sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
De fait, entrer l'accusé à Ondelat raconte, c'est Christophe Ondelat qui est notre invité dans Culture Média ce matin, Philippe.
Est-ce que vous connaissez, Christophe, vos sujets de cette semaine ? Parce qu'après les trois guillotinés de Tarbes, les derniers, moi je les ai regardés. Si vous n'avez pas en tête, je peux vous les dire.
Allez-y.
On va se marrer. Hein. Donc demain, histoire de légiste, un médecin légiste
CHU
de Poitiers.
J'ai enregistré hier, ça.
Il a traité 450 dossiers de morts suspectes.
Donc je vais raconter une histoire.
Oh, non. Et vendredi, l'étrangleur de Strasbourg.
Oui, ça voilà. C'est une rediffusion.
Mais je voulais qu'on parle également de cette émission ambitieuse que vous préparez avec Robert Badinter. Quel va être le contenu alors ?
Enregistré demain. En fait, je vais raconter en quatre épisodes. C'est probablement un des textes les plus forts qu'il m'ait été donné de raconter. C'est la manière dont, à travers deux procès, le procès de Roger Bontemps en 1972 devant la cour d'assises de l'Aube et le procès ensuite de Patrick Henry, comment, devant la même cour d'assises, c'est ça qui est très intéressant, comment s'est construite la conviction absolue de Robert Badinter qu'il fallait abolir la peine de mort, chose qu'il a faite ensuite lorsqu'il est devenu garde des Sceaux de François Mitterrand. C'est un récit de l'intérieur, du point de vue de l'avocat de ces deux procès. Et ce sont deux textes, deux livres qui s'appellent L'abolition et l'exécution, plutôt l'exécution et l'abolition, dont j'ai tiré ce texte en gardant 90% de mots venant de Robert Badinter. Il y parle, je pense, comme personne ne l'a fait aussi bien, de ce qu'est le métier d'avocat. Moi, ça m'a... Vraiment, je me suis éclaté à écrire ces textes que j'ai écrits il y a un certain temps déjà. Et nous enregistrerons demain les quatre interviews avec Robert Badinter. Et ce sera diffusé, non pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. Ça va faire événement parce que, à mon sens, la puissance du texte de Badinter est telle qu'elle nous cloue sur place. Vraiment, ça sera quelque chose de très fort. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu.
Je vais parler du podcast. Si les gens travaillent entre 14h et 15h, il y a évidemment le podcast, ça marche très bien. Vous êtes très suivi.
Oui, le podcast marche très bien. Ouais. Oui, mais on a des raisons de penser. Bon, le monde du podcast est actuellement un bordel sans nom, dans lequel on a peu de statistiques et surtout pas de classement. C'est-à-dire, personne ne sait qui est numéro 1 du podcast en France, qui est numéro 2, numéro 3. Ce qu'on a, c'est les classements que nous fournissent les grosses applications de podcast, comme
Spotify,
iTunes, par exemple, qui nous classe deuxième, podcast français, et d'autres nous classent deuxième. A priori, nous nous situerions entre la deuxième et la troisième place. On joue avec Affaires Sensibles, l'émission de France Inter, qui est assez proche de la nôtre. Donc il y a une logique là-dedans. Et donc voilà, on se tire la bourre pour la deuxième place. La première place étant tenue par les inamovibles grosses têtes d'RTL. Sont donc des émissions de radio qui tiennent le lead des podcasts. Mais oui, ça marche. Alors après, combien de gens m'écoutent en podcast? Je ne sais pas répondre à votre question et personne ne saura répondre à cette question.
Personne ne sait jamais répondre sur aucune émission. Christophe Ondelat, toute la France vous connaît à cause de l'émission Faites Entrer l'Accusé. Vous avez présenté, de 2002 à 2011, vous avez arrêté de vous-même. L'émission a été reprise par Frédéric Lantieri. Or, France 2 a décidé d'arrêter de produire cette émission, comme c'est le droit de chaque chaîne. Et l'émission sera désormais diffusée sur la chaîne RMC Story. Mais sans vous, ça sera une nouvelle émission. Qu'est-ce que cela vous inspire ?
Au début, ça m'a inspiré de la colère parce que, bien entendu, personne ne m'a prévenu. Et donc, on apprend par la presse qu'on est vendu, quoi.
Ouais.
Comme on a travaillé pour le
vendu, il faut expliquer, parce que c'était racheté.
Oui,
RMC Story a racheté la collection.
Pour être exploité à RMC Story, par RMC Story. Et quand RMC Story aura cessé de l'exploiter, elle sera sans doute à nouveau revendue. Ainsi, elle a déjà été exploitée tellement de fois, cette émission, puisqu'elle a fait les beaux jours de Planète aussi pendant presque 20 ans. Voilà, au début, on est un peu en colère parce qu'on a l'impression d'être vendu comme des petits pains. Et puis après, on se calme parce que au début, j'ai dit je vais faire un procès, etc. Ouais. J'avais quelques atouts dans ma manche. Au début de cette histoire, on avait des contrats assez faiblards. Petit à petit, ça s'est un peu consolidé et donc probablement qu'il était prévu que cette vente intervienne un jour. Mais au début, les premières émissions étaient peu couvertes par des contrats. Donc j'avais des atouts dans ma manche. Je me suis dit, quoi, tu vas faire un procès à la maison de production qui a fait de toi le personnage de Faites Entrer l'Accusé. C'est impensable. D'abord, le fondateur de cette maison de production, Christian Jorin, est un de mes meilleurs amis. Je n'ai que des amis là-bas. Je ne me voyais pas leur faire un procès, même si la boîte a été vendue depuis et qu'elle appartient à TF1. Peu importe, sont les gens qui m'ont guidé dans cette affaire. Je ne me suis pas vu leur faire un procès. Et puis quand même, quoi, il n'y a pas beaucoup d'émissions qui vivent comme ça, au-delà de leur durée de vie
et
normale.
Et même le générique tellement évocateur, en quelques notes, on reconnaît, on est dans l'ambiance.
Je suis pour rien.
Oui, bien sûr, mais
c'est Michel Legrand revisité par Ariel Wiesman, car l'arrangement est d'Ariel Wiesman.
C'est pas vrai. Sachez-le. Ah, dis donc, ouais. C'est une info, je viens de l'apprendre. Ouais. Vous aimeriez revenir en télé? Vous avez dit au Parisien, c'était en juin dernier, quatre producteurs m'ont contacté, mais j'ai plus de nouvelles.
Alors, depuis, il y a eu des pas, c'est-à-dire que j'ai... C'est une,
dites-le en 20 secondes, il me reste 20 secondes.
C'est une histoire typique de France Télévisions. J'ai rencontré la directrice des programmes de France 2 qui m'a dit, on va faire un pilote. On était prêt à tourner le pilote et la directrice des programmes de France 2, enfin de France Télévisions, est partie.
Nathalie voilà. Darigrand. Non, c'est elle, Nathalie Darigrand. Darigrand.
Et donc, j'ai plus de contact et mon énergie est raplapla.
Merci beaucoup, Christophe Ondelat. C'est la première fois que j'entends dire que son énergie est raplapla.
Oui,
je rappelle, Ondelat raconte.
Hein.
C'est du lundi au samedi sur Europe de 14 à 15h. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Place maintenant aux digressions des rats d'auteur, votre rendez-vous d'humour dans Culture Média avec le duo Stéphane de Groot et Gilles Gaston Dreyfus.